you. I wanna be loved by you alone. Poupoupidou.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 15 janvier sur les ondes de Radio Occitanie. Alors, je vous souhaite une très belle année 2016 avec la santé, de la joie et de belles lectures à découvrir dans votre émission Page à Page. Et puis, pour la première émission de cette nouvelle année 2016, je reçois Nicole Zimmermann. Bonjour Nicole.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons vous présenter « Journal d'une adolescente juive sous l'occupation » écrit par Maryse Crémieux-Hurstel, Maryse avec un « i » parce qu'elle y tient, et c'est publié aux éditions Priva, et on en parle dans quelques instants après la page info. D'abord, cette première info qui concerne directement mon invité et Maryse d'ailleurs. Demain, samedi 16 janvier à 17h à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, une rencontre avec donc Nicole Zimmermann et Maryse Crémieux-Hurstel autour du journal d'une adolescente juive sous l'occupation publié chez Priva. C'est, l'entrée est libre et je ne doute pas que ce sera un très beau moment.
Alors, je précise que j'ai écrit la préface de ce livre. C'est la raison pour laquelle je suis liée à
Vous êtes la belle-fille de Maryse.
Et j'ai écrit la préface.
Qui vous a confié ce journal, dont vous avez écrit la préface. Et c'est pour ça, Maryse étant un petit peu fatiguée aujourd'hui.
Voilà, c'est pour ça qu'elle
n'est pas là. Sinon, elle était bien sûr invitée également. Mais donc, vous êtes là, Nicole. Et
je vais essayer de la représenter.
Tout à fait. Alors, la deuxième info, c'est dimanche 17 janvier de 10h à 19h à la salle des fêtes de Montgiscard, avenue du Faubourg du Cerf. C'est le 12e salon du livre d'hiver qui vous accueillera, petits et grands, pour rencontrer les auteurs, échanger avec eux, assister à des tables rondes et puis dans la convivialité et la bonne humeur avec l'entrée est libre là aussi. Et puis il y aura de nombreux auteurs que les auditeurs de Page à Page connaissent pour certains, comme Alain Monnier, Jean-Yves Lorichès, Stéphane Furlan, Pascal Casanova, Benoît Séverac, Didier Goupil ou encore Hélène Dufaux, Maxime Vivas et bien d'autres. Et puis, la troisième et dernière info, c'est mercredi 20 janvier à 14h à la librairie Escalir, 61 avenue de Toulouse à Escalquins, une rencontre avec Rachel Corenblit qui est auteure jeunesse et Cécile Bonbon qui est illustratrice dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse de Saint-Orens qui aura lieu les 23 et 24 janvier prochains et autour de leur cahier à la petite semaine publié au Rouergue avec donc il y a maths, philo, histoire et français. Donc l'entrée est libre là aussi.
Page à page, Claire Ambille.
Et merci beaucoup à Stéphane pour la technique de cette émission. Et c'est, je crois, d'ailleurs, aujourd'hui, sa dernière émission dont il fait la technique. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour toutes les émissions que tu as faites avec moi. Alors, Nicole Zimmermann, vous avez été journaliste à France 3 Sud durant de longues années.
Oui.
Vous êtes actuellement en retraite.
Tout à fait.
Puis, vous êtes auteur du Quai des Oranges, de Artemov, Le Dernier Centaure, tous les deux publiés aux éditions Priva, du Dictionnaire des Causes Perdues que vous avez coécrit avec Laurent Leguevac et publié chez Lattès.
Oui.
Et puis un autre livre aussi sur les conditions de travail.
Essai sur les problèmes de santé au travail.
De santé au travail, tout à fait.
J'ai écrit avec des médecins régionaux de la santé.
Tout à fait. Et puis aujourd'hui, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vous nous présentez ce journal d'une adolescente juive sous l'occupation, écrit par votre belle-mère Maryse Crémieux-Hurstel et publié aux éditions Priva. Et nous allons en parler ensemble, vous allez nous parler justement de cette préface, mais avant je vais faire un petit tour d'horizon personnel, je dirais, par rapport à ce journal qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu. et que je recommande bien sûr à tous les auditeurs de Radio Occitanie qui nous écoutent. Alors ce journal intime, c'est celui donc d'une jeune adolescente, puis d'une jeune fille, d'une jeune femme, qui est donc Maryse, qu'elle a écrit de 1943 à 1949, et qu'elle a tenu donc durant ces 4 années, malgré le risque, parce qu'on va le voir, elle l'a écrit avec son vrai nom, hein, sous l'occupation c'était assez risqué, je dirais, et puis qu'elle a conservé tout ce temps-là également.
Parce que vous ne l'avez pas dit, mais Maryse était juive, enfin elle l'est toujours. Oui, bah, Maryse oui, c'est une petite voilà, fille juive, donc fait. Elle se cachait sous un faux nom, mais elle tenait son journal et là elle écrivait
son vrai nom. Et donc voilà, donc avec les risques encourus, et puis aussi qu'elle a donc ce carnet intime qu'elle a conservé durant tout ce temps, et qu'un jour elle vous a confié, vous nous raconterez dans quelles circonstances tout à l'heure, Paul, sa belle-fille, et qui a publié comme ça. Bon, elle nous l'a offert aussi à nous lecteurs, d'une certaine manière, ce partage de souvenirs pour que, je cite, « jamais, nulle part, la barbarie ne puisse s'installer en maître ». Alors en plus, ces mots résonnent d'autant plus par rapport au contexte actuel.
Bien sûr, bien sûr.
Dont elle est au courant.
Elle est au courant, bien sûr. Elle a effectivement toute sa vie souffert. Elle a toute sa vie souffert d'avoir été cachée sous un faux nom, de ne plus savoir, enfin, d'être obligée d'abandonner un jour tout ce qui était sa vie,
son identité,
sa vie, sa pratique religieuse. Même si la famille n'était pas très pratiquante,
oui, parce qu'ils étaient absolument. Elle notifie pas qu'elle va à la synagogue.
Pas du tout. Non, absolument jamais. C'était vraiment une famille très assimilée et Et le choc a été d'autant plus grand. On lui avait toujours dit que la famille était juive, mais enfin, comme on le dit dans d'autres familles,
elle trouvait que c'était joli israélite.
Elle disait israélite parce que c'était mieux.
C'était plus joli.
Elle était quand même issue d'une famille qui avait des moyens financiers assez considérables parce que son père était un homme d'affaires assez riche, donc elle vivait dans un milieu très protégé. Et puis d'un seul coup, 39, 40, la guerre, et les juifs deviennent. La lie de la société.
Les parias, on les écarte de la vie quotidienne, de leur travail, on va le voir. Le papa est obligé de prendre un prête-nom pour pouvoir continuer à faire ses affaires, enfin, surveiller ses affaires à Paris. Enfin, on va le voir, oui, c'est tout ça, c'est.
Et ça a été pour elle un choc énorme.
Alors c'est un journal intime que Maryse donc à qui Maryse va confier bien son ressenti justement des événements de sa vie quotidienne de cette époque, c'est cette sombre période qu'est l'occupation, puis ensuite la libération de la France et puis ensuite l'après-guerre, puisque ça la dernière page c'est en 1949 qu'elle l'écrit, et puis aussi avec toute cette angoisse et cette peur que l'on devine entre chaque mot, entre chaque ligne de ce carnet, mais aussi avec ses joies et ses coups de cœur. Et puis ses doutes et ses questionnements d'adolescente, et puis ses révoltes aussi, parce que c'est une adolescente, malgré tout, je dirais. Et on le
sait
ça aussi.
C'est d'avoir une adolescente, justement.
Oui.
Et dans ses interrogations sur ce qu'elle ne comprend pas dans ce qui lui arrive, elle reste une adolescente.
Oui, tout à fait. Malgré toute cette
malgré
horreur
le poids de la vie et malgré le. Et elle est tout à fait consciente de la gravité de la situation.
Oui, mais
elle ne la comprend pas, mais elle la subit, elle la vit. Et c'est ce qui m'a touchée
c'est effectivement très touchant. Et puis c'est avec donc il y a toutes ces pensées aussi, puis ces réflexions donc sur la vie, sur l'amour, sur son avenir aussi. Et puis avec sa formidable, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est sa formidable envie de vivre et d'aimer. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'elle va fêter ses 89 ans le 8 mai prochain.
Totalement.
Et que voilà, ce carnet existe, elle est là et voilà.
Ça, c'est extraordinaire.
J'ai vraiment été touchée.
C'est un beau cadeau qu'elle fait à la vie et que la vie lui fait.
Tout à fait. Et puis, tout cela, malgré ses blessures et ses déceptions, parce qu'elle en a évidemment, malgré les difficultés qu'elle a vécues à cette période, malgré l'absence de cet être si cher qui est en fil rouge tout le long de son journal, c'est son papa.
Oui.
Et pour toute cette volonté de croire et d'espérer, et qui est vraiment palpable dans toutes ces lignes que le lecteur peut lire, et puis qu'elle nous offre à nous, lecteurs, tout simplement et humblement, et que l'on n'oublie pas. Voilà. Merci Maryse.
Je suis tout à fait enchantée de ce que vous dites, parce que c'est exactement ce que je ressens.
Elle j'ai vraiment ressenti à la lecture, ça m'a vraiment beaucoup touchée.
Oui, oui. Mais quand elle m'a confié ce journal, moi, je l'ai pris d'abord comme une preuve d'affection et de confiance d'abord, mais d'affection surtout. Oui. Et quand je l'ai lu, j'ai d'abord pensé à le faire éditer pour la famille, pour que
mais
ses
oui,
enfants,
que
ses petits-enfants
voilà,
surtout, parce qu'elle n'a jamais parlé.
Et puis petits-enfants hein, qui vont grandir aussi.
Et je me disais qu'il fallait qu'ils connaissent l'histoire de cette femme,
c'est l'histoire de la famille.
Et l'histoire de leur famille.
Oui.
Puis en plus je l'ai lu, et plus je me suis dit, et plus j'ai travaillé dessus, parce qu'il fallait quand même un peu élaguer.
Oui,
remettre
parce qu'un journal intime d'une adolescente,
il y a des répétitions,
bon,
j'ai essayé de corriger, en respectant au plus possible
mais
son
oui,
écriture,
tout à fait. Oui,
mais
oui.
En essayant quand même de l'aménager un petit peu. Je l'ai proposé à Priva, qui a eu un coup de cœur aussi pour journal, et qui l'a publié, et qui en a fait, je dois dire, un très bel objet.
Oui, on va le voir, je termine juste. Donc voilà, on ne ressort pas indemne, j'ai trouvé que voilà, on ne ressort bien sûr pas indemne de cette lecture, qu'on s'en rappelle longtemps, et je crois que ça ne nous quitte pas après. Et alors ce carnet intime, eh bien, il y a des passages, voilà, il y a une alternance. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est cette alternance de passages plutôt sombres, où elle dit des choses difficiles de son du quotidien ou même de son ressenti. Puis il y a des passages amusants aussi et gais, qui alternent tout au long de ce carnet. Et c'est ça que je trouve aussi magnifique, parce que il n'est pas triste. On peut pas dire qu'il est triste malgré.
Non, il est même. On peut dire qu'il est presque optimiste. En fait.
Oui. C'est vrai. Oui, parce qu'elle croit toujours, elle espère, elle a cette force en elle, cette envie de vivre.
C'est vraiment.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Nicole, oui, la couverture. Alors voilà, c'est une très jolie couverture, parce qu'en fait, elle représente la couverture du vrai journal de Maryse.
Voilà. Au départ, moi, j'aurais voulu l'appeler d'une phrase que Maryse écrit au départ de son journal.
Oui,
elle l'appelle M'ouvrir serait indiscret.
Ah oui.
Et je me disais que ça faisait un joli titre pour le livre. Et Priva m'a dit très justement, non, ça sera pas un bon titre. Parce que ça dit rien. M'ouvrir serait
indiscret. Il faut
l'appeler Journal d'une adolescente juive pendant la guerre.
Voilà,
mais pour qu'il y ait quand même
cette
phrase de Maryse, ils ont reproduit la couverture de son premier cahier, puisqu'en fait il y a 5 cahiers, mais qui sont les cahiers de brouillon sur lesquels elle écrivait. Et le premier de ces cahiers, elle griffonnait, elle faisait des dessins. Le livre est la reproduction
avec
de la couverture
derrière.
Voilà, et où on lit effectivement M'ouvrir serait indiscret.
Oui, ouais, ouais.
C'est son journal intime. Et je pense que c'est un bel objet, vraiment.
Oui, vraiment, c'est un très beau livre. C'est émouvant. Puis même d'ailleurs, au milieu de ce livre, il y a de nouveau des pages reproduites du vrai journal de Maryse également, avec on voit son écriture, ses petits.
On voit qu'elle écrivait
toute
petite, parce qu'à l'époque, l'encre et les papiers étaient rationnés,
c'était rare,
donc il fallait pas gaspiller. C'est pour ça que son cahier est très difficile à lire aussi, parce que là, on a reproduit les pages les plus lisibles, mais elle écrit dans tous les sens un peu, elle rajoute, l'encre pâlit, et puis en plus, elle essaye de gagner de la place et d'écrire vraiment.
Mais c'est émouvant, je trouve, d'avoir au milieu de ce livre des vraies pages, enfin des pages reproduites de ce vrai carnet avec l'écriture de Maryse. Je trouve ça très émouvant. Puis il y a aussi des photos de famille où on la voit, elle, sa petite sœur Françoise, Georgette, sa nounou, la brave nounou Georgette, son papa aussi, Claude, et puis sa maman également.
Et sa grand-mère.
Sa grand-mère aussi.
Mamie qui vivait avec elle. Et qui
la mère de son père. Voilà. Et puis on voit même une photo d'Opède. C'est un village du Luberon où la famille va se cacher pendant un an, pendant plusieurs mois. Et c'est dans le Luberon, c'est en zone libre. Et d'ailleurs, vous me dites qu'elle y a été il y a quelques temps.
Alors c'est à cette occasion qu'elle m'a confié son journal, parce que, une année, nous sommes partis, nous allons souvent en vacances dans le Luberon, et nous avons emmené une année Maryse, et on l'a emmenée essayer de retrouver les traces de cette maison où elle avait été réfugiée à Opède-le-Vieux.
Voilà, quand elle commence à écrire son journal, c'est en janvier 1943, et donc c'est
elle
à Opède-le-Vieux,
où la famille s'est réfugiée, donc
s'est cachée sous
un faux nom. Il y a donc la mère, la petite sœur de Maryse, son frère Yves.
Lui aussi a des faux papiers, parce que sinon il peut être appelé au service du travail obligatoire, le STO.
Tout à fait.
Hein.
auquel il n'échappera pas, mais Georgette, qui voilà. est vraiment le bon ange de cette famille à ce moment-là,
oui, va le,
arrivera,
va faire, à le
ce
faire
qui
libérer.
Est extraordinaire, arrivera à le faire libérer. On n'imagine pas aujourd'hui qu'une jeune femme, parce que Georgette est jeune, elle a pas 30 ans, je crois, à ce moment-là.
Oh oui, oui, elle est toute jeune.
Elle est toute jeune et elle va aller s'expliquer avec les autorités, dire que non, Yves est soutien de famille. Et
voilà,
soutien
oui, parce qu'entre père, et entre temps, le papa, lui, a été arrêté.
Voilà, et donc, elle arrivera à faire libérer Yves, ce qui paraît oui, absolument oui, extraordinaire. Oui, oui, oui. Quand on sait la
qu'elle a eu quand elle transportait cette valise pleine de billets et qu'on n'a pas ouvert ouvert toutes les valises des autres personnes sauf la sienne. C'est quand même extraordinaire.
Beaucoup de gens doivent leur vie à des miracles de
oui,
ce genre.
Oui, oui, c'est ça.
Et puis,
la
il faut
chance,
penser à ceux qui n'ont pas eu ce miracle oui. et qui ont été obligés d'ouvrir leur valise
malheureusement,
et qui sont
malheureusement,
partis
oui.
en fumée quelque part entre Auschwitz et Sobibor. Mais...
Tout à fait.
Pour cette famille-là,
il y a eu des coups de chance, des miracles, voilà, des petits miracles. Et vous, Nicole, vous avez écrit donc la préface de ce journal. Vous avez parlé, enfin, vous allez nous le dire, vous y parlez aussi de votre propre famille.
De ma propre famille, parce que effectivement,
en écho
à ce qui est arrivé à la famille de ma belle-mère, donc à la famille de mon mari, j'avais envie aussi d'expliquer que il y a une espèce de, on peut faire pas une généralisation, mais les histoires, même si elles sont complètement individuelles et familiales, se répondent les unes aux autres, les unes par rapport aux autres.
Surtout dans cette période donnée.
Tout le monde a, et je raconte justement qu'il y a des petits miracles partout. Mon grand-père voit sa vie.
Il y en a eu aussi,
justement,
oui,
et donc la mienne, en même temps, à sa présence d'esprit dans un train. Comme Georgette, qui à un moment donné a la bonne attitude, c'est-à-dire qu'elle arrive en confiance devant ceux qui sont chargés d'ouvrir les valises et que sa confiance paye.
Voilà,
non, pas vous, puisque...
Oui, non, vous, mademoiselle, voilà, vous êtes trop jolie, voilà, on n'ouvre pas votre valise.
Mais parce qu'elle a réussi à garder son calme, à ne pas paniquer.
Tout à fait.
Et à s'approcher carrément à sa valise
comme
à la main.
Oui, tout à fait.
En se disant, elle se disait, bon, ben, je suis foutue,
voilà,
j'y vais. Et en fait, l'autre en face a pris cette espèce d'assurance j'ai rien à cacher, donc je vous ouvre ma valise si vous le voulez. Il lui a dit, non, c'est pas la peine.
Et comme votre grand-père qui voit donc le train s'arrête, il est dans un train, train s'arrête, la milice arrive pour demander les papiers de tous les voyageurs et lui, il se réfugie en première classe et puis en plus il a les habits qu'il faut.
Il a les gants beurre frais.
Et alors là, il va même jusqu'à apostropher un milicien qui est sur le quai en lui disant mais qu'est-ce qui se passe dans ce train ? Et le milicien qui lui répond ne vous inquiétez pas, on contrôle les papiers, on vérifie, mais le train va repartir, ne vous inquiétez pas, monsieur.
Il s'est replongé dans la lecture du journal qu'il avait sur les genoux, mais dont il n'a probablement pas pu lire une ligne à ce moment-là.
J'imagine.
Mais en tout cas, il est resté dans le train, et effectivement, les gens sont remontés, enfin certains, malheureusement, n'ont pas pu remonter,
Mais lui a pu continuer son voyage.
Malheureusement, les vérifications étaient quelquefois fatales à ceux qui avaient ces faux papiers, mais lui est resté dans le train.
Ce miracle fait que vous êtes là aujourd'hui, Nicole.
Voilà, et c'était encore pire parce qu'en fait, les miliciens faisaient déculotter les hommes pour vérifier qu'ils n'étaient s'ils étaient circoncis ou pas. Ouais. Et donc, même s'il avait de faux papiers, ce qui était le cas, et si on lui avait demandé d'enlever son pantalon, il était circoncis et donc il serait parti en fumée comme des millions d'autres juifs à cette époque.
Ouais. Et donc dans cette préface, donc voilà, justement, vous évoquez donc voilà les petits miracles concernant votre famille, et puis vous expliquez un petit peu tout le travail que vous avez fait pour le journal de votre belle-mère, Maryse.
Voilà. Et puis j'explique aussi que de même que Maryse a été cachée, que personne ne l'a dénoncée à Oped, parce que c'est vrai aussi que personne. Dans un village, tout se sait, surtout à cette époque, les gens avaient bien repéré qu'il y avait plusieurs familles juives qui se cachaient à Oped, et personne ne les a dénoncées.
C'est peut-être les gens de la campagne, ils parlent moins peut-être
qu'en ville. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, je sais pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vécu à mon époque à moi, que les gens dans les villages avaient été souvent choqués des arrestations qui pouvaient se produire sous leurs yeux ou à côté, et qu'il y avait une espèce de réflexe
Puis, dans les villages, on n'en parle pas.
Voilà. Et il y avait aussi, dans les villages, surtout en zone libre, une haine de l'allemand qui était.
Oui.
Qui est enfin du nazi, mais on dit.
Bah d'ailleurs, quand elle parle des Allemands, Maryse, elle dit les Boches.
Hein, Boches,
c'est,
oui.
Voilà, d'ailleurs, c'est ses premiers mots. Donc, comme je disais, donc le début, c'est en janvier 1943. Donc, elle a 15 ans et demi et elle note d'ailleurs, elle marque. C'est journal d'une égoïste née en 1927 à Gemap, Algérie, pour les Boches, et en vérité à Paris, dont le nom est Camus pour les Boches et Crémieux en réalité. Voilà, donc ça donne vraiment le ton et l'amplitude de son journal, rien qu'avec ce début de journal, ses premiers mots. Et c'est là où on réalise tous les risques encourus d'avoir tenu, d'avoir gardé ce
qu'elle cachait, et qu'elle cachait même à sa famille, puisque justement leur gouvernante Georgette
avait déjà supprimé le premier journal
oui, parce qu'elle avait bien conscience du danger que ça représentait
c'est pour la protéger, voilà, mais elle a réussi à en faire un nouveau. Ah oui,
elle avait de la volonté, Maryse, elle en a toujours, elle ne l'a pas perdue.
Et ben tant mieux. Et donc voilà, c'est son premier journal, elle a 15 ans et demi et on est en janvier 1943 et donc son papa est encore avec eux, mais il a dû abandonner ses affaires à Paris.
Ils ont déménagé à Marseille.
Voilà, ils ont fait pas mal, oui, Bordeaux, Lyon, voilà, et ils sont à Oppède. Mais son papa va être arrêté assez rapidement en février,
à la gare de Marseille.
Voilà, et déporté enfin à Drancy d'abord.
Ensuite à Sobibor.
Voilà, en Pologne. C'était en Pologne.
Oui, tout à fait, dont il n'est pas revenu.
Voilà.
Et Maryse ne l'a su qu'après la guerre.
Ils n'ont jamais eu de nouvelles tout le temps après la libération. Elle espérait,
elle va comme beaucoup de familles de déportés à l'hôtel Lutetia, puisque c'était là qu'arrivaient les déportés qui avaient pu être libérés. Et jamais son père n'est revenu.
Non. Elle n'en a
jamais fait le deuil, en fait.
On ne peut pas faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas revenu. C'est très difficile. Puis il faut se rappeler qu'à l'époque, maintenant, quand on a un traumatisme, quand il arrive quelque chose de grave, on a toute une équipe de psychologues, etc. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout cela.
Il n'y avait rien.
Donc les gens devaient faire
avec ce qu'ils avaient, comme ils pouvaient, et se taire. Et n'en pensaient pas moins, mais
continuer d'avancer, continuer de vivre. Tout au long de son journal, c'est ça, cette volonté de vivre, cette envie de vivre, l'envie de sortir. À Oppède, c'est là qu'elle rencontre son premier flirt, Richard.
Oui,
c'est là
où elle va est très amoureuse.
Oui, et c'est là où elle va à sa première surprise partie. Donc, malgré tout ce contexte difficile, la disparition donc de son papa, malgré après.
Mais en fait, elle ne sait qu'après la guerre. Pour elle, au moment où elle apprend son arrestation, elle pense, elle se raccroche à la pensée. qu'il est malheureux, qu'il souffre, que c'est dur, mais qu'il est dans un camp de travail.
Mais
l'absence est dure, et en même temps, quelque part, elle le sait, ce sont des camps de travail où on y met aussi les enfants, puisque les Juifs sont arrêtés avec les enfants quand ils sont arrêtés.
Donc on sait bien que ce ne sont pas quand même des camps de travail.
On ne peut pas imaginer que ce sont les camps de concentration dont malheureusement on connaît aujourd'hui la réalité, mais on imagine bien que ce ne sont pas des camps de travail. Réellement, on n'y envoie pas des gens pour travailler. Donc, il y a une crainte, il y a une peur,
sans savoir exactement ce qu'il y a derrière le mot camp de travail, on sait que ce n'est pas très bon.
Oui, voilà, on sait que ce n'est pas... Et bon, elle se raccroche à l'idée qu'il est dans un camp de travail et qu'il va revenir, mais elle n'en est pas vraiment très sûre.
Alors, Stéphane me dit gentiment que le temps, malheureusement, nous rattrape toujours trop vite. Mais d'un côté, c'est bien aussi parce qu'il faut que les auditeurs aient envie de se plonger dans le journal de Maryse, aient envie de l'avoir entre les mains, de le lire. Et je le recommande vraiment,
merci.
Vraiment chaleureusement. Et puis, merci à vous, Nicole, d'être venue nous parler donc de ce journal. Et puis, merci infiniment à Maryse.
De l'avoir écrit, de l'avoir conservé.
Et de vous l'avoir offert.
Et de me l'avoir transmis.
Voilà, tout à fait.
J'espère que la transmission sera vraiment totale.
Et oui, parce que
je pense qu'il faut que tout le monde a intérêt à le lire aujourd'hui dans les conditions actuelles.
Tout à fait, tout à fait. Alors donc Maryse qui fête donc ses 89 ans le 8 mai prochain, comme je l'ai dit, qui sera entourée des siens. Elle a eu 3 enfants, elle a eu 8 petits-enfants et 6 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Donc voilà, une belle famille, grande et belle famille qui sera autour d'elle le 8 mai prochain.
J'espère bien que nous pourrons fêter dignement ses 89 ans.
Tout à fait. Et on pensera très, très fort à elle, à Maryse.
Merci Claire.
Merci beaucoup. Alors on se retrouve le vendredi 29 janvier sur les ondes de Radio Occitanie à 14h30 et je recevrai Daniel Pagès pour son livre La Forge des mensonges. Et ce soir, rediffusion de cette émission à 23h30 sur Radio Occitanie. Et puis on se quitte en chanson. Une chanson de Charles Trenet, Les enfants s'ennuient le dimanche, qui est citée dans le journal de Maryse.
Elle en parle effectivement.
Oui, donc voilà, j'ai eu envie qu'on se quitte avec cette chanson.
Merci, c'est une très jolie attention.
Merci beaucoup Nicole, et merci à Stéphane, et à Dissiatz.
Promenade ou tartine, pâtissier, pas plus que les bois, n'auront de succès, gamins et gamines, sont plus tristes que maman ne croit. Viennent la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin, y'a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins. Viennent la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. Les parents s'ennuient le dimanche les parents s'ennuient.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Pou-pou-pi-doo.
Page à page, l'émission du livre. Proposé et présenté par Claire Ambille.